sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Les membres de l'Académie des Beaux-Arts ont au printemps 2011 entamé une réflexion sur la main de l'artiste, l'importance du geste dans l'expression des arts. La publication trimestrielle de la lettre de l'Académie des Beaux-Arts consacre son numéro de printemps au lien entre la main, l'œil et le cerveau chez les artistes. Un sujet passionnant, tout comme les œuvres des femmes sculpteurs, rassemblées sur 3 siècles au musée de Boulogne-Billancourt. Sur le pont des arts vous propose une interview de Brigitte Terzieff, première femme sculpteur qui fit son entrée au sein de l'Académie il y a 4 ans. Mais revenons d'abord sur ce numéro de la lettre de l'Académie des Beaux-Arts, le numéro 64 du printemps 2011 consacré à ce dossier de la main de l'artiste. François-Bernard Michel, membre de l'Académie, dans la section membres libres, rappelle combien ce thème de réflexion classique au milieu de l'art est revisité dans un esprit novateur par quelques membres de l'Académie, graveurs, sculpteurs, critiques d'art, médecins, architectes, dans ce numéro qui s'interroge aussi sur, ou même, pourrais-je dire, sur la main de l'artiste et le droit. Pour l'artiste graveur Louis-René Berge, la main du graveur n'est pas celle du dessinateur, même si le graveur dessine parfois avant d'attaquer sa plaque de cuivre au burin. La rapidité du crayon qui glisse s'oppose au burin qui creuse et réclame un geste plus lent, agressif et contenu. L'effacement du trait étant impossible, le travail de gravure exige une parfaite maîtrise. Les bonjours, le geste est bien rythmé et on dirait que la main creuse sans difficulté, c'est le moment où il faut se méfier, la main s'endort. Danger, nous dit-il. Pour le sculpteur Claude Abeille, la main reprend à son compte le projet de l'artiste. Et, selon ses mots, c'est la récompense du sculpteur devenu le premier spectateur de l'apparition d'une œuvre dont il est certes l'auteur, mais dont il doit peut-être à sa main la meilleure part, celle du mystère de toute œuvre d'art réussie. Pour Paul Andreu, pour l'architecte, nous dit-il, parler de la main, c'est parler du dessin à l'origine de toute projection spatiale, de tout geste architectural. Il a conservé depuis 1969, sur des carnets, presque jalousement, la trace de la partie la plus intime de son travail. Puis, pour gagner du temps, il a commencé à montrer ses dessins qui, aujourd'hui, lui apparaissent, certes, comme des outils de la découverte de ses projets, mais comme des dessins qui avaient aussi quelque chose qu'il n'avait ni cherché, ni voulu, la possibilité d'exister hors d'eux. Pour le compositeur Laurent Petit-Girard, selon ses mots, la main du chef d'orchestre est celle d'un sculpteur qui pétrit l'immatériel, celle d'un personnage qui ne joue de rien, mais dont on dira pourtant qu'elle a un son. Du côté de la section de composition musicale de l'Académie des Beaux-Arts, les académiciens musiciens se préparent à accueillir prochainement, sous la coupole de l'Institut de France, leur confrère Michael Lévinas le 15 juin. Canal Académie retransmettra cette séance solennelle de réception et cette semaine-là des interviews du compositeur. En ce mois de mai, l'Académie des Beaux-Arts a décerné le prix d'orgue Jean-Louis Florins 2011 pour sa 9e édition à Virgile Monin, un jeune organiste de 23 ans. Revenons quelques instants sur l'histoire de ce prix. Il s'agit du grand prix annuel qui est destiné à promouvoir les jeunes organistes diplômés de France, issus des conservatoires nationaux de région, des écoles nationales de musique ou des conservatoires municipaux de la ville de Paris. La finale du concours a eu lieu cette année sur le grand orgue de la cathédrale d'Angers. Ce grand prix porte depuis 2005 le nom de Jean-Louis Florins, membre de l'Académie des Beaux-Arts, décédé en juillet 2004. L'organiste récompensé doit avoir moins de 30 ans et le prix a été créé en 2002 par l'Académie des Beaux-Arts à l'initiative, justement, de ce compositeur et organiste. Mais qui était Jean-Louis Florins ? Élève de Pierre Schaeffer et d'Olivier Messiaen, il mena en parallèle des études universitaires de langue et de civilisation et de musique. Il apprit ainsi l'arabe littéraire, l'éthiopien. Fin connaisseur des langues sémitiques, il fit des études d'ethnomusicologie. Ses voyages des Antilles à la Polynésie, en passant par l'Afrique, où il séjourna plusieurs années, lui ont permis de travailler en particulier sur les polyphonies des oiseaux en milieu équatorial. À la fois compositeur et professeur d'analyse d'ethnomusicologique au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, il était aussi organiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il fut compositeur en résidence auprès de l'Orchestre national de Lyon de 1995 à 1997 et de l'Orchestre national des Pays de Loire de 2000 à 2002 et il est l'auteur d'une quinzaine d'opus. Son œuvre a été plusieurs fois distinguée. En 1989, il a reçu le Grand Prix musical de la ville de Paris pour l'ensemble de son œuvre. En 1990, le Grand Prix musical de la Fondation Prince Pierre de Monaco lui fut décerné pour Hassoun opus 7. L'année suivante, en 1991, c'est le Grand Prix de la musique symphonique de la SACEM qui lui a été décerné. Élu à l'Académie des Beaux-Arts en 1995, il a été l'artisan du rapprochement entre une association défendant l'orgue sous toutes ses formes et l'académie. L'association CSPO, sigle de l'association, œuvre pour la connaissance et la sauvegarde du patrimoine des orgues. À cet effet fut créé le Grand Prix d'orgue de l'École supérieure des Beaux-Arts d'Angers, qui attribue donc chaque année depuis 2002, date de création du prix, une récompense distinguant le meilleur jeune espoir parmi les organistes. Le prix a été renommé Grand Prix Florins ou Grand Prix d'orgue Jean-Louis Florins en 2005 à la suite de la mort de l'artiste en 2004. Alors l'association se propose en fait de fédérer dans le Maine-et-Loire tous les groupements qui peuvent s'intéresser à l'orgue à tuyaux. Elle organise des conférences sur cet instrument majestueux, sur la littérature d'orgue et la musique sacrée sous toutes ses formes et organise même des stages de formation destinés aux organistes de la région. Elle entend participer à la sauvegarde du patrimoine existant en favorisant l'entretien, l'amélioration des orgues et elle entend également constituer un comité technique qui peut éventuellement jouer un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics, État ou collectivités territoriales. L'association promeut aussi l'orgue dans sa forme la plus actuelle en favorisant la construction d'orgues nouveaux en créant et organisant des concours, des concerts et des festivals. Alors le Festival des orgues, Printemps des orgues en Anjou, pour sa 19e édition, propose justement des concerts d'orgue autour du baroque, de l'accordéon et de la littérature. Et consultez le site leprintempsdesorgues.fr pour disposer de la liste des concerts du mois de juin entre Cholet, Saumur et Angers. Cette année, le jury du Grand Prix Florins a récompensé donc Virgile Monin, actuellement étudiant, né en 1987, étudiant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en classe d'écriture. Il a effectué ses études au Conservatoire de Nantes et de Saint-Maur-des-Fossés, où il a obtenu plusieurs prix. Le lauréat est titulaire également d'une licence de musicologie de la faculté de Rennes 2. Il a consacré des travaux de recherche à Marcel Dupré en matière de facture d'orgue et également des travaux de recherche au poème pour pianos et cordes de Gabriel Dupont. Virgile Monin se produit régulièrement en concert, aussi bien en France qu'à l'étranger. Le prix lui sera officiellement remis en novembre prochain lors de la séance solennelle de rentrée de l'Académie des Beaux-Arts le 23 novembre 2011. Les femmes et la sculpture, un sujet souvent occulté. La sculpture au féminin est à l'honneur au musée de Boulogne-Billancourt où sont présentées des dizaines d'œuvres réalisées par des femmes sculpteurs du XVIIIe siècle à nos jours. La commissaire d'exposition, Anne Rivière, fait sortir de l'ombre cette sculpture trop méconnue dont la hardiesse est tue. L'occasion pour, sur le Pont des Arts, de donner la parole à une académicienne sculpteur, Brigitte Terzieff, dont une des œuvres d'ailleurs accueille le visiteur à l'entrée de cette exposition. Sculpture apostrophe L au pluriel, sculpturelle, est donc une exposition qui se déroule du 12 mai au 2 octobre. L'académicienne Brigitte Terzieff, dans cette interview, présente l'exposition et revient sur cette exceptionnelle réunion d'œuvres venue des musées du monde entier et qui honore tous les grands noms de la sculpture au féminin. Retrouvons-la. Brigitte Terzieff, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet entretien téléphonique. Vous participez à une exposition de sculpture organisée par la ville de Boulogne-Billancourt au musée des années 30. Sculpturelle, les sculpteurs femmes du XVIIIe siècle à nos jours. Le public peut voir du 12 mai au 2 octobre 2011 une centaine de chefs-d'œuvre de 90 femmes sculpteurs, françaises ou étrangères, du XVIIIe siècle à nos jours. Les expositions d'envergure consacrées à la sculpture sont assez rares en France et celles qui mettent en lumière les femmes sculpteurs encore plus. Brigitte Terzieff, vous êtes la première femme académicienne sculpteur à avoir fait son entrée au sein de l'Académie des Beaux-Arts, c'était en 2008. Comment expliquez-vous que le grand public connaisse surtout les noms de Camille Claudel, Niki de Saint-Phalle, Annette Messager ou Louise Bourgeois ?
Eh bien, parce que justement, les femmes n'ont pas été mises assez à l'honneur, c'est vrai, ni au XVIIIe, ni au XIXe, ni au XXe siècle. Enfin, il y a eu quand même, au XXe siècle, il y a eu des grands noms et des grandes sculptrices qui ont quand même percé malgré tout. Hein.
Comment on peut expliquer cette confidentialité, en fait ? Les expositions des sculpteurs femmes sont peu reprises dans les médias. Ça reste quand même relativement confidentiel.
Oui, c'est vrai, mais voilà justement une exposition où l'on voit vraiment un grand panorama des sculptrices du XVIIIe à nos jours. C'est un travail énorme qu'a fait Anne Rivière. Et là, je dois dire que vraiment, on voit un peu ce qu'était, par exemple, la sculpture de buste de l'école de Pajoux avec des sculptrices comme Julie Charpentier ou Madeleine de Seine, qui font un travail très très soigné et qui peut intéresser beaucoup les antiquaires. Et puis alors, bien sûr, il y a tout le 19e siècle avec la belle statuaire et puis bien sûr les grands noms, comme vous dites, de Camille Claudel à Tchana Orloff ou évidemment, ce qui est mis à l'honneur, c'est surtout le 20e siècle parce que là, on a un panorama quand même des grandes sculptrices du 20e siècle avec Martha Pan ou Isabelle Valberg ou Pénalba, et puis la grande Germaine Richier, qui est très importante dans le XXe siècle, hein, qui a été le détonateur de cet expressionnisme qui a entraîné beaucoup de monde. Elle est très importante, elle est un peu en arrière à notre époque, parce qu'on n'est pas à une époque pour ça, on n'est pas sur cet expressionnisme ou sur l'inconscient, c'est pas dans l'esprit de l'époque. Alors évidemment, elle n'est pas là, elle devrait être très importante, Germaine Richier.
Elle a eu une immense influence sur les sculpteurs hommes aussi. Je veux dire, là, il n'y a pas
mais
de...
Mais bien sûr, c'est ce que je veux dire. Quand je parle de l'influence, c'est sur tout le monde, sur tous les artistes. Ouais. Elle était très, très importante.
On sait peu cette histoire aujourd'hui. On la connaît peu.
C'est incroyable à quel point elle est au purgatoire, carrément. Il y a aussi des grandes sculptrices comme Pénalba. Oui. C'est très importante aussi, Pénalba. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a des problèmes d'héritage, mais c'est bien dommage. Il y a Isabelle Valberg aussi, mais ça, elle est la plus connue. Martha Pan, très importante. Et puis, évidemment, les grandes figures très connues, c'est Niki de Saint-Phalle, c'est Louise Bourgeois, évidemment. Elles sont là, hein. Il y a celles qui sont pas très connues et il y a les grandes figures aussi. Donc, c'est pour ça que cette exposition est très importante. Et puis, le catalogue est superbe. Hein. Là, je dois dire que là, c'est un travail très soigné. On a vraiment toutes les photos des sculptures qui sont exposées d'une manière parfaite, parce qu'elles ne sont pas dans la séduction, et en même temps, elles sont très fidèles à la réalité. C'est un beau travail qui a été fait, là.
La commissaire de l'exposition, Anne Rivière, a-t-elle choisi un angle particulier ? Comment a-t-elle présenté, justement, la diversité des œuvres ?
Par époque, par style. Donc, évidemment, elle a fait des panneaux différenciés sur le XXe siècle, le XVIIIe, le contemporain. Il fallait beaucoup d'espace pour ça. Hein.
Alors, quelle œuvre présentez-vous dans cette exposition,
Alors, moi, je
Brigitte
Terzieff présente une grande statue, parce que je travaille sur les statues qui ont un thème, sur l'idée des esprits, des veilleurs, je les appelle les spectres, mais enfin, mot large pour dire, ils ont toujours une verticalité, tous,
oui.
mais sont tous différents.
Oui.
Mais enfin, ils font partie d'un groupe. Donc, j'ai prêté un de ces spectres,
oui.
qui n'a pas pu être dans la grande salle là-haut, parce qu'elle était trop haute.
Oui.
Donc, on l'a mis en bas, au rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée.
Elle porte un nom, cette sculpture ?
Elle s'appelle aussi spectre, comme les autres.
Comme les autres, mais...
Voilà.
D'accord. C'était juste pour savoir s'il
oui,
y avait un nom ou un titre particulier.
Ça fait partie d'un tout. J'espère un jour les exposer ensemble, ça serait bien. Il faut trouver un lieu pour ça.
Est-ce que, en dehors de cette sculpture qui accueille en quelque sorte
oui.
les visiteurs, est-ce qu'il y a d'autres œuvres que vous avez présentées dans cette exposition ?
Oui, il y a aussi un petit format qui s'appelle En Défense, qui est une espèce de buste. Aussi, on pourrait dire un veilleur, mais c'est juste une tête casquée,
oui.
en quelque sorte, qui est dans les salles contemporaines, au cinquième étage.
Quel regard portez-vous sur cette confrontation des œuvres entre les œuvres du XVIIIe et les
oui.
œuvres plus contemporaines ? Comment est-ce que les œuvres dialoguent entre elles
dans... Eh bien, je trouve qu'il y a une succession qui est bien faite. Je trouve que là, on est vraiment dans la sculpture. Alors, c'est ça qui est bien, c'est qu'Anne Rivière a voulu rester sculpteur, en quelque sorte. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fait un agrandissement très important sur le contemporain, parce
oui.
que, évidemment, le contemporain... Et s'éloigne un peu de l'idée de la sculpture ronde-bosse. Hein. On n'est pas une époque à ça. On y reviendra, je pense. Mais on est moins sur ça. On fait des installations, on fait du conceptuel. Donc c'est la sculpture proprement dite qui est moins à l'honneur. Mais son travail a été fait, d'ailleurs, c'est un endroit, c'est ce musée, vraiment l'antre de la sculpture. Hein. Bon, c'est la sculpture des années 30, c'est un musée pour la sculpture. Donc Frédéric Chappet, qui est le directeur de ce musée, a invité Anne Rivière, qui a fait vraiment un travail en l'honneur de la sculpture pour la femme sculpteur. Voilà.
Oui.
Donc je trouve que c'est très cohérent. Et il y a aussi une grande logique dans la succession des œuvres. Je trouve que ça se suit bien. Il n'y a pas de grand choc. Il n'y a pas de point de rupture, je ne l'ai pas senti dans l'exposition.
Ni dans les matériaux,
dans les
sculptures plus conceptuelles.
Curieusement, non. Parce que justement, elle n'est pas allée très loin dans le contemporain. On n'a pas cette rupture
D'accord.
qui est dans la réalité. Donc là, on a un petit peu une table qui est un peu avec des moyens très réalistes. Alors là, évidemment, ce n'est plus du tout la sculpture comme on l'entend. Mais autrement, les autres œuvres restent avec du plâtre ou du grillage. Et après, évidemment, on retombe dans le bronze, dans le marbre, dans la taille. Donc, il y a une cohérence surtout dans l'idée de l'œuvre sculptée. Quoi.
Brigitte Terzieff, merci de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir présenté cette exposition Sculpture Elle. C'est le titre de l'exposition « Les sculpteurs femmes du XVIIIe à nos jours ». Exposition qu'on peut voir au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, où vous présentez des œuvres et c'est une exposition assez représentative justement de la sculpture contemporaine en France que l'on voit dialoguer avec les œuvres anciennes. Merci Brigitte Terzieff et à bientôt.
À bientôt.
Bestiaire, photographie. La galerie MAG, sur une proposition de Robert Delpire et Pascal Le Torel, présente du 5 mai au 4 juin une exposition de photos intitulée « Bestiaire ». Entre chiens et lions, dans la nature ou en ville, 10 grands photographes, un peintre Jacques Monory et une femme sculpteur Russ Adler posent leur regard sur le monde animalier. Aux côtés d'une photographie de lion de Yann Arthus Bertrand qui se révéla photographe à part entière en observant les fauves in situ en Afrique dans les années 80, est accrochée une toile de Monory, petit format, montrant un de ces fameux tigres bleus. Le fondateur de l'agence Altitude et de la fondation Good Planet et l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux animaux au cours de sa carrière, en dehors de ses photos vues du ciel, l'aventure commença pour lui avec les lions en 1983. On connaît également de lui un très bel album de photographies bestiaux en 91, mais il en a fait aussi sur les chats et sur les chiens. Le photographe Nicolas Bruand saisit aussi les animaux dans la nature et vous verrez à la galerie Mag un crocodile souriant de toute sa splendeur. Vous découvrirez également le regard d'Eliot Erwitt qui a saisi les personnalités américaines telles que Marilyn Monroe, des anonymes de son temps et les chiens de son époque avec un sens du portrait saisissant. Les images poétiques de Frank Horvat, autre grand nom de la photographie, explorent ici à la galerie l'esprit d'une chouette. Mais toutes les générations de photographes sont représentées, y compris les plus jeunes, comme le photographe Jean-François Sprissigo, premier prix de photographie Académie des Beaux-Arts, dont les images dialoguent avec aisance avec le visiteur comme avec les autres œuvres. Vincent Bioulès, dessin. Dans l'actualité des arts, de manière plus générale pour le mois de mai et de juin, saluons le premier festival de l'histoire de l'art qui se déroule du 27 au 29 juin à Fontainebleau. Signalons également une exposition de dessins contemporains, ceux de Vincent Bioulès, ancien professeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. L'exposition du cabinet des dessins de Jean Bonnat présente 90 de ses dessins figurant Rome et la Villa Médicis réalisés lors de séjours sur place en 2007 et 2008. Sur de grands formats, utilisant la gouache et le pastel ou sur des carnets de croquis, Vincent Bioulès livre une interprétation très personnelle du paysage sans s'attacher à une technique particulière. L'artiste a fait don de ses dessins à l'École des Beaux-Arts. En ce début de XXe siècle, il dessine et peint les jardins de la célèbre villa, ce que des dizaines d'artistes, pensionnaires ou voyageurs avant lui ont réalisé, parmi les plus grands, Ingres ou Balthus ou Viala, une démarche en fait originale, loin de tout académisme pour ce peintre qui vient de l'abstraction.